J'ai commenté l'histoire de Josias il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus. Et je voudrais dire ce matin que s'il y en a qui sont partis de zéro, d'un lourd héritage familial, d'un lourd passif, donc pensez à l'histoire de Josias, d'autres, inversement peut-être, on a l'impression qu'ils ont tellement d'avantages au départ. On pourrait dire que, alors je vais vous parler de Salomon, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, je crois. Le père de Salomon était roi. Vous me direz, remarquez, le père de Josias aussi. Donc, mais, enfin, au moment de la dangereuse passation de pouvoir de David, son père, David qui était vieillissant et qui commençait à perdre le sens des réalités, donc il y a un coup d'État qui a failli avoir lieu, et Salomon, complètement sans y être pour rien, bénéficie spontanément de relations qui vont lui garantir le royaume. Dieu avait promis le royaume... David avait promis de donner le royaume à Salomon. David a failli perdre un petit peu les mains du pouvoir. Et heureusement pour Salomon en tout cas, des conseillers ont défendu Salomon. C'était un moment de coup d'État. Donc Salomon a du soutien, alors même qu'il n'a rien demandé du tout. À la différence de Josias, Salomon a grandi en ayant sous les yeux l'exemple de son père, David, que le Nouveau Testament qualifie d'un homme selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on dirait ça de nous aujourd'hui? En tout cas, il a grandi dans ce cadre-là d'une crainte de Dieu. On pourrait dire aujourd'hui, peut-être, il est allé à l'église depuis qu'il était tout petit. Il y avait des moments de prière à la maison. L'atmosphère familiale était nourrie de l'Écriture, du respect de Dieu. Voilà. Au moment de mourir, en plus, alors je fais un inventaire qui va durer un certain temps et après je proposerai 2 prolongements. Au moment de mourir, en plus, son père lui donne les bonnes consignes. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. On peut apprécier et approuver. Salomon connaît la bienveillance de Dieu pour son père, c'est pas un secret. Et dans le texte que je vais lire après, il va en faire part, il en est donc très très conscient. Il sait ce que son père doit à Dieu. Et quand Dieu lui dit, presque à la manière de conte du Moyen-Orient, où il y a un génie qui apparaît et qui dit « demande-moi 3 vœux et je te donnerai... » Voilà. Là, on est bien avant ce folklore, et on est dans le réel, avec Dieu qui dit à Salomon, « demande-moi ce que tu désires que je t'accorde. » Et quand nous entendons Salomon prier pour la première fois, et c'est au tout début de son règne, on peut être saisi, on peut être surpris par ce qu'il dit. « Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. » Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple, que tu as toi-même choisi. Un peuple nombreux qui ne peut pas être dénombré, ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Et quand on continue la lecture, ce que je ne vais pas faire, mais on lit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et j'actualise légèrement la façon dont Dieu répond. Puisque tu ne m'as demandé ni une bonne année, ni d'être protégé du Covid, ni de recevoir plein de pognon, la bénédiction, je vais réaliser ta demande et je te donnerai tout ce que tu n'as pas demandé. Et on sait que Salomon donc reçoit une sagesse étonnante. Le récit biblique la donne à voir dans les chapitres qui suivent, avec la scène des deux femmes qui se disputent un enfant, parce qu'il y a un des enfants d'une des femmes qui est morte et un qui a survécu, mais chacune prétend que c'est le mien. Alors c'est parole contre parole, et on fait quoi devant deux personnes qui nous disent « mais c'est moi qui étais là, non c'est moi qui étais là ». On fait quoi pour dire ça? le récit le donne à voir aussi en nous disant que de tous les pays avoisinants, on viendra voir Salomon, on viendra se mettre à son écoute, à l'écoute de sa sagesse. Et vous savez aussi que cette sagesse, comme Jacques nous l'a rappelé en première partie, donc nous pouvons en bénéficier encore puisque elle semble avoir traversé l'histoire et le temps, puisque au moins 3 livres bibliques sont attribués traditionnellement à Salomon, les Proverbes, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Et si on continue la lecture du livre, on voit que ça ne s'arrête pas là, parce que Salomon, parce qu'il est ce qu'il est, du coup va avoir sur Facebook de l'époque un réseau international. Il va avoir des contacts, il va être en contact avec des spécialistes de bâtiments, dans tout un tas de domaines artisanaux. Et donc il va construire pour le Seigneur un temple somptueux, tout en gardant, ce qui est touchant chez Salomon, c'est qu'il garde le sens des mesures. Il mesure bien qu'il n'est pas, pas plus que ce qu'il est, quelque part. Et donc on l'entend prier au moment où il dédicace ce temple qui est somptueux, immense. Je me rappelle, parenthèse, j'ai déjà raconté peut-être d'ailleurs, être allé visiter la réplique de Saint-Pierre de Rome qui est à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Et ce qui m'avait frappé, c'est que quand on est à la grille, et qu'on voit le bâtiment là, on dit bon, je marche, dans 2 minutes j'y suis. Et on marche, et 10 minutes après, on marche toujours, et je parle de temps réel, on marche toujours, et dans 2 minutes j'y suis. Donc c'est colossal. Voilà. Est-ce que, en vérité, dit Salomon, Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de te construire. Et à la fin, dans la même prière, dans le même mouvement, à la fin du chapitre, il appelle le peuple. Voilà, il garde le sens de ce qui compte. Il appelle le peuple à rester fidèle à Dieu. Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements. Tant et si bien, je continue toujours le parcours, que, chose étonnante, j'y viens, Dieu lui apparaît. Lisons-nous une seconde fois pour valider sa demande. C'est au chapitre 9. Mais quand on entend que Dieu se lui apparaît pour une seconde fois, ça veut dire que Dieu lui apparaissait pas tous les matins au petit déjeuner, ou même une fois par mois. C'est quelque chose qui se passe, qui est inhabituel. Et on a là quelque chose qui dit quelque chose de la relation, du regard que Dieu peut porter sur Salomon, de la relation qu'il a avec lui. Et on continue, et jusqu'à la fin du chapitre 10, on voit cette sagesse, on voit que cette intelligence porte du fruit, se multiplie, c'est un peu le cercle vertueux, un geste posé positif, et on grandit dans la sagesse, on grandit dans le... Comme quand on est... Quand on a un métier, on apprend à faire quelque chose avec ses mains, et au bout d'un moment, c'est devenu spontané. Vous êtes venu pour la plupart en voiture. Souvenez-vous des premières fois que vous êtes monté dans la voiture pour essayer de la conduire, de combien de fois ça a calé, combien de fois... Et puis là, c'est tellement facile. Par contre, si on mettait la plupart d'entre nous au volant d'un camion, je ne sais pas comment on ferait, enfin, comment ça se passerait pour nous. Mais parce qu'on a pris le cercle vertueux de l'habitude... Alors les choses nous deviennent très très faciles. Nous savons marcher, nous sommes là pour la plupart d'entre nous, en tout cas, il y a un enfant qui me tombe sous le regard, qui sait peut-être marcher d'ailleurs aussi, peu importe, mais on sait marcher. Cercle vertueux. Alors que d'autres sont dans un cercle vicieux, d'échec en échec, de malheur en malheur. Et c'est là, j'arrive au terme, que nous lisons, et la plupart d'entre nous, vous le savez, donc la conclusion de sa vie, une partie au chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes, au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à elles, et elles ne s'uniront pas à vous, sinon elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. » Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel, son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. L'Éternel, qui était apparu deux fois à Salomon, s'irrita contre lui, parce que son cœur s'était attaché à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Détaché, merci, il y en a qui suivent, heureusement. S'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers. Mais Salomon désobéit aux ordres de l'Éternel. Donc, différence par rapport à Josias. Salomon part gagnant, il a avec des avantages. Salomon n'a pas la grosse tête, il garde la mesure de ce qu'il est. Quelqu'un de tellement démuni pour régner, de tellement petit par rapport à celui qui remplit les cieux et qui nous rassemble encore ce matin. Alors il s'appuie sur lui, sur celui qui remplit les cieux, et il reçoit en plus la bénédiction de Dieu. Et Jacques nous l'a dit, je le redis, si personne comme Josias n'a suivi Dieu, on lit que Salomon surpasse les rois de la terre par sa sagesse, par sa richesse. Il est privilégié, il a de l'or entre les mains, dans tous les sens du terme, et une part de ce qui fait le... Et en même temps, une part... Donc il a... Non, une part de ce qu'il est et de ce qu'il a fait nous rend admiratifs, et une part de ce qu'il a fait rend le lecteur gêné, honteux. Et tant et si bien que depuis l'Antiquité, si vous lisez les commentaires anciens, on s'est posé la question, mais bon, est-ce que Salomon, il est où là? Il est au paradis ou il est en enfer? On ne sait pas quoi faire de ça. Il y a quelque chose dans cette bipolarité qui nous met mal à l'aise. Voilà, alors je dirais à partir de là deux choses. La première sera à l'intention de ceux qui peut-être seraient tentés de dire, ou à qui il arrive de dire, « Ah, ben moi si j'avais eu la même chose entre les mains, si j'avais eu les atouts qu'avait Salomon, et puis bon, on va être gentil, on va dire juste la moitié. Enfin, tout ce qu'a eu Salomon quand même. Hein. On va être modeste, je vais demander juste la moitié ou un petit tiers. Allez, c'est bon, quoi. Ah, si j'avais grandi dans un cadre privilégié, comme le sien. Bon, parenthèse là quand même, parce que quand on dit ça, on est en plein fantasme, hein, excusez-moi. Parce que oui, j'ai dit que David craignait Dieu, c'est le cas, mais dans la famille de David, les frères et sœurs, il y a des situations d'inceste, il y a des situations de violence, de guerre, donc là on est en plein fantasme. Mais bon, donc... Plutôt, si j'avais eu devant les yeux des modèles comme lui, il en a eu. Si j'avais eu telle chose de Salomon, alors ça s'appelle l'envie. Et depuis la cour de récréation, déjà, enfin, je sais pas pour vous, en tout cas pour moi, on se dit, mais si j'avais eu la même paire de chaussures que lui, là, et elle, enfin, que tous les autres, finalement, parce que moi, je n'avais pas la même paire de chaussures. Et puis si on avait eu la même paire de chaussures, de toute façon, il nous arrive de dire aussi, mais moi, si j'avais eu la même facilité de se lier d'amitié, comme lui, il a le sens de l'humour, il a le contact tout de suite, mais moi, j'ai pas ça. Quand je fais une blague, personne rit. D'ailleurs, je viens de faire une blague et personne n'a ri. Il n'y avait pas de blague, c'était une blague. Enfin, c'est compliqué tout ça. Merci de rire. Mais les autres, ils sont drôles au moins. Les autres, ils étaient drôles. Et moi, j'ai pas eu ça. J'étais pas capable de ça. On me regardait puis on souriait. Et on continuera comme ça la litanie avec tout ce dont nous nous estimons privés. Je vous propose de remplir un petit papier, chacun, vous allez mettre sur le mur ce dont vous vous estimez privés, puis on le lira ensemble. Tous ces moyens que nous n'avons pas, tous ces droits que nous n'avons pas, qu'on devrait avoir, ces avantages dont bénéficient les autres. Pour eux, c'est trop facile. Avec le conjoint qu'ils ont, ou bien avec leur célibat. Ah, eux, ils sont célibataires, ils n'ont pas ce genre de problème. Ah ben oui. Tandis que nous, s'il n'y avait pas le coronavirus, si j'avais pas déménagé à l'île d'Abo, à la Verpillière, à Villefontaine, si j'avais eu seulement un autre patrimoine génétique. C'est l'histoire d'Einstein, je ne sais pas si elle est vraie. Je pense que non, mais bon, j'en sais. On va faire comme si elle était vraie. C'est Einstein qu'une femme magnifique vient voir et qui lui dit « Imaginez qu'on se marie, vous et moi. Et imaginez que nos enfants héritent de ma beauté et de votre intelligence. Ça serait génial. » Et Einstein aurait répondu « Oui, mais imaginez que ce soit le contraire. Alors là, ça serait catastrophique. » Ici, aucun des personnages du récit n'a la naïveté de croire et de se dire, de dire ou d'enseigner que les choses se passeraient tellement mieux si j'avais. Et aucun ne cherche à se défausser de sa responsabilité en invoquant les circonstances. Tous rappellent à la responsabilité personnelle. Et je reviens sur les textes. En bas, l'Éternel lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers. Mais Salomon désobéit aux ordres de l'Éternel. Dieu, on pourrait dire c'est suffisant déjà, mais bon. David, son père, suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, partout où tu iras. Et puis, Salomon lui-même, qui dit au peuple que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel notre Dieu pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements. Alors je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous avions eu les compétences, les privilèges de Salomon. Et je me permets de nous dire que je crois qu'aucun d'entre nous, en fait, ne saurions ce que nous aurions fait avec. Mais même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je dirais que, de toute façon, à mon sens, la question n'est pas là. Elle est plutôt, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a donné, de ce qui nous a été donné. Parce que ça, tu l'as. Ça, c'est du concret. On n'est pas dans la spéculation. Est-ce que je vais, avec ce qui m'est donné, faire une gestion avec gratitude, avec humilité, avec crainte de Dieu? Ou bien est-ce que je vais alimenter cette litanie de l'envie de ce que les autres ont, ou la jalousie, voire la colère, la récrimination? Parce que dans cette perspective, je crois que la question qui nous est posée, c'est la suivante. Je ne sais pas comment tu gérerais ce que tu n'a pas si on te le donnait, mais voilà ce que tu as au fond de toi, voilà ce que tu as, tes joies peut-être, et aussi tes colères, tes envies, tes récriminations, ça tu l'as à ta portée, je l'ai à ma portée, qu'est-ce que tu en fais de ça? Ça, pour le coup, tu as une certaine prise dessus. Autant le reste t'échappe, autant ça t'appartient. Et pour ce qui me concerne, j'aurais envie de dire, et j'aimerais qu'on me le dise aussi, si je tenais ce discours, « Ah oui, mais si j'avais eu ça, j'aurais fait autrement. » Si quelqu'un me dit ça, j'ai envie de lui dire, « Ok, je t'entends, là, et j'entends ta colère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ta colère ? Et en fonction de ce que tu en fais, peut-être que je vais croire ce que tu me dis, quand tu me dis, « Si j'avais eu autre chose, je ferais autrement. » Mais si tu en restes à ta colère, excuse-moi, mais je suis tenté de ne pas te croire. J'aimerais qu'on me tienne ce discours aussi. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire et de me dire. La deuxième chose, c'est peut-être la plus frappante de ce texte, de ce long récit avec 7 chapitres successifs positifs, et puis enfin une dernière note qui vient tout chambouler ou tout remettre en perspective, je ne sais pas. Tout simplement, nous avons beau avoir, que ce soit des compétences, que ce soit de la sagesse, que ce soit du relationnel, je ne sais pas comment il faut dire, des capacités techniques de changer la prise qui est derrière ici, par exemple, comme Jacques l'a fait cette semaine. Merci Jacques, je ne sais pas s'il écoute, mais j'en profite pour nous dire que la prise a été changée et remercier Jacques devant tout le monde. Enfin, c'est très important, mais pour que vous le sachiez. Que c'est grâce à ces personnes qui ont ces qualités-là, dont plusieurs sont ici, que nous pouvons être là, que cette salle a été construite, que vous écoutez la prédication, que ça passe sur Zoom, etc. Donc il y a des personnes qui ont ça. Mais nous avons beau avoir toutes ces choses, ou la moitié de ces choses, mais ça ne résout pas tout, hein, c'est ça. Nous pouvons être grands, nous pouvons être enviés, même. Nous pouvons être admirés, nous pouvons être respectés, même si ce n'est que dans notre cercle relativement étroit, de notre famille, de nos proches. Et c'est pas gagné déjà. Et nous pouvons être enviés et respectés pour de très bonnes raisons. Nous pouvons avoir, et je reprends les paroles de la lettre aux Corinthiens, nous pouvons avoir la douceur, la fermeté, ça c'est pas dans Corinthiens, nous pouvons avoir la sagesse, nous pouvons avoir les prophéties, nous pouvons avoir la connaissance, nous pouvons avoir la foi, jusqu'à déplacer toutes les montagnes. Nous pouvons même être des exemples de générosité, sacrifier tous nos biens pour les donner aux pauvres. On peut avoir tout ça. Et en même temps, et à juste titre, il peut y avoir des choses qui ternissent notre image. Notre image de marque, notre crédibilité. Il y a des choses qui ternissent notre spiritualité. Et il y a des choses qui affadissent et qui font naître, et à juste titre, de la perplexité. Et comment c'est possible ? Même quand elles sont tolérées par notre entourage, même quand elles sont supportées par notre entourage parfois, ou même quand elles sont imposées à notre entourage, parce que c'est nous le chef, au boulot, ou j'en sais rien, ou à la maison, et même si elles sont publiques, parce qu'après tout, je doute que Salomon ait pu avoir juste à la cave son harem. Il y avait du monde dans le harem. Il ait pu cacher son mariage, parce que c'était, il y a eu des mariages. En plus, c'était un mariage avec un roi d'une autre, avec des personnes d'origine royale d'un autre pays. Donc je pense pas que ça se fasse vraiment en douce, discrètement, pour que personne ne le sache. Et puis il y a des édifices religieux qu'il a construits justement pour rendre culte à d'autres dieux, pour faire plaisir à ses femmes. Donc ça, c'est visible. Parfois, c'est visible et pourtant ça ne dérange peut-être personne de proche. Mais ça n'en dérange pas moins le lecteur et ça n'en dérange pas moins Dieu. Mais le lecteur, en tout cas, et l'observateur, pour lui, il se trouve avec un doute, avec une gêne. Et ce doute, il traverse les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et ici, c'est pas faute d'avoir été prévenu. Voilà pour Salomon, et en même temps, j'ai dit nous aussi. Je me suis glissé aussi en disant ça, parce que je crois que de telles choses, elles habitent ou elles risquent de nous habiter, chacun d'entre nous. Nous sommes tous, dit la lettre aux Romains, nous sommes tous marqués par le péché. Nous sommes tous des personnages, des personnes en qui se mêle ce qu'il y a de beau, d'admirable, et ce qu'il y a de moins beau, parfois ce qu'il y a de laid, qu'on est peut-être parfois le seul à savoir ou à se reprocher, mais qui est là, néanmoins. Parfois on se reproche des choses aussi que à tort, mais ça voilà. Il y a tous quelque chose ou des choses en nous qui sont de l'ordre de l'intègre et des choses qui sont de l'ordre du tordu. Et ce qu'il y a de beau peut amener de la considération, de l'admiration, et à juste titre. Et ce qu'il y a de nez, de lait, peut faire naître la déception, le regret, le sentiment d'être désabusé, déçu. Et au pire, peut encourager les personnes de notre entourage à faire pareil. Après tout, si c'est lui qui le fait, je peux bien me le permettre. Et je crois qu'il en sera ainsi jusqu'au moment où nous continuerons à vivre ici, jusqu'au moment où nous arrêterons notre vie ici. Et j'ai envie de dire, je ne vois pas d'autre façon de faire en même temps, de façon paisible, de vivre que d'assumer tout cela. Déjà, comme un réel auquel nous n'échappons pas. Parce que si nous rêvons de perfection, là, ça, pour le coup, ça, nous exposons aussi à des choses qui risquent d'être plus tragiques. Non, normalement, je dois y arriver, je dois vraiment, ça, je devrais y arriver facilement, alors, merci Seigneur pour les progrès qui se font et qui se font parfois au fil du temps et parfois de manière très, très radicale et très, très rapide. Mais on reste, la lettre de Jean nous dit, si tu crois que tu es sans péché, tu te mets le doigt dans l'œil. Enfin, on ne dit pas que c'est ça comme ça, mais c'est l'idée. Et tout ça, je nous invite à l'assumer et à l'entendre et à demander à Dieu son aide. Mais tout ça me dit que ici, c'est ici et maintenant, encore, et ça sera, ce sera demain, encore, ici et maintenant, que nous avons besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. C'est pas viable autrement, je crois pas. Et je suis touché de voir, et je termine par là, que quelques passages du Nouveau Testament associent Jésus-Christ à Salomon. Ben, c'est Jésus lui-même qui s'associe à Salomon. Il ouvre cette voie en disant, c'est dans dans un discours, il évoque ce qu'était Salomon dans sa richesse, et il dit il y a ici plus que Salomon. Et vous savez probablement que le mot Salomon, c'est Salam aleikum, c'est Shalom, c'est la paix. Donc si quelqu'un incarne la paix, c'est bien quelqu'un qui porte son nom. Et Dieu avait annoncé que viendrait le fils de David, et Salomon est le fils de David. Et donc Jésus assume les traits du fils de David. Et la différence de nous et de Salomon, il assume tout ce qu'il y a de beau, et en lui il n'y a pas de trace de péché. Donc Salomon, dans ce qui ne ternit pas, préfigure le Christ. Et le Christ accepte d'être préfiguré par lui. C'est ce que je trouve touchant. Le Christ accepte d'être préfiguré par des personnes comme David. Le Christ accepte d'être préfiguré par des personnes comme Salomon. Le roi David attendu, c'est moi. Le fils de David attendu, c'est moi. Et j'y vois là une image du Christ qui s'associe à nous et qui nous fait grâce, qui veut nous faire grâce. Et en même temps, qui nous invite implacablement, sans relâche, à nous engager dans une autre voie que certains aspects de la vie de Salomon. Donc je m'invite et je nous invite à l'entendre. Et je conclus par un passage de la lettre aux Hébreux qu'on a lu aussi hier soir au groupe de jeunes, et qui évoque tous ceux qui ont eu la foi en Dieu et qui nous dit... Nous aussi qui sommes, donc il y a tout un tas, toute une galerie de personnages de l'Ancien Testament, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons, continuons à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Et si l'un d'entre nous en était tenté, je vous invite à entendre cet appel, à regarder, à contempler Jésus. Je vous pose juste un moment de silence.